de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
C'est Rita, bonsoir, voici le journal, nous commençons avec les titres. La Russie interdit l'entrée à davantage de Néo-Zélandais. Une délégation de l'ONU se rend en Afghanistan pour discuter de la protection des droits des femmes. Hong Kong lève les dispositions d'isolement pour les personnes atteintes de COVID. Le président Jokowi visite la région de Likupang en espérant que le tourisme se redressera après la pandémie. La présidente du Parlement indonésien a eu une réunion bilatérale avec le président du Parlement sud-coréen. Le ministre indonésien de l'Investissement a souligné l'égalité dans la répartition de la croissance économique au WEF 2023. Le programme de partenariat entre l'Indonésie et l'URI-US s'est poursuivi dans le sud-est de Sulawesi. Voici le journal complet. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé jeudi qu'il interdirait à 31 Néo-Zélandais d'entrer dans le pays pour avoir promu un agenda anti-russe et soutenu l'Ukraine. Reuters a rapporté que cette décision était la deuxième interdiction d'entrer en 6 mois. Parmi les personnes interdites figurent des journalistes de plusieurs médias imprimés, l'ancien secrétaire à la Défense Ron Stanley Mark et un professeur de relations internationales de l'Université d'Otago. Il leur est interdit d'entrer en Russie indéfiniment. La dernière action ajoute le nombre de Néo-Zélandais interdits d'entrer en Russie jusqu'à 193. À la suite de 2 vagues de sanctions l'année dernière qui ont également interdit l'entrée à la première ministre Jacinda Ardern. Ardern a annoncé le mois dernier une aide humanitaire supplémentaire de 3 millions de dollars néo-zélandais pour l'Ukraine, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est devenu le deuxième dirigeant étranger à s'adresser au Parlement néo-zélandais. La secrétaire générale adjointe des Nations Unies, ONU, Amina Mohamed, est la directrice exécutive d'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et les femmes, Sima Bahou, ont visité la capitale, Kaboul. L'arrivée de la délégation de l'ONU vise à discuter de la protection des droits des femmes suite à un certain nombre de restrictions imposées par le régime taliban récemment. Le porte-parole du secrétaire général adjoint de l'ONU, Farhan Haq, a déclaré mercredi aux journalistes qu'ils avaient tenu une série de réunions d'organisations non gouvernementales nationales et internationales et de femmes afghanes pour examiner la situation, exprimer leur solidarité et discuter de stratégies pour activer et protéger les droits des filles et des femmes. Le gouvernement de Hong Kong déclare qu'il n'exigera plus que les personnes exposées à la COVID-19 soient mises en quarantaine à partir du 30 janvier. Cela a été annoncé par le dirigeant de Hong Kong, John Lee, lors d'une réunion législative jeudi, citée par Reuters. La levée des dispositions de quarantaine fait partie de la décision de diminuer le statut de COVID-19 en maladie respiratoire endémique et fait suite à la même mesure prise par la Chine le 8 janvier. Cependant, les résidents de Hong Kong sont toujours tenus de porter des masques, sauf qu'ils font de l'exercice. La semaine dernière, les services ferroviaires à grande vitesse entre Hong Kong et la Chine continentale ont repris pour la première fois depuis le début de la pandémie. La réouverture des services ferroviaires à grande vitesse intervient au milieu d'une vague d'infection à coronavirus en Chine continentale après que le pays a abandonné sa politique zéro COVID. Le président du Covidodo, Jokowi, s'est rendu jeudi dans la région de Likupang, située dans la résidence du nord de Minahasa, en province de Sulawesi du Nord. Dans sa déclaration après l'examen, selon un communiqué de presse reçu à Jakarta, le président espère que toutes les destinations touristiques qui étaient auparavant touchées par la pandémie pourront bientôt se rétablir et revenir à la normale. Le président Jokowi a déclaré que tous les pays, toutes les destinations touristiques ont vécu la même chose. Cependant, la reprise en Indonésie est plus rapide. Likupang est l'une des destinations super prioritaires ou DSP fixées par le gouvernement en plus du lac Toba au nord de Sumatra, Borobudur au centre de Java, Mandalika à l'ouest de Nusa Tenggara, Labuan Bajo à l'est de Nusa Tenggara. Le président estime que le secteur du tourisme renforcera encore la croissance économique du nord de Sulawesi. La présidente du Parlement indonésien, Puan Maharani, a officiellement reçu la visite du président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Kim Jin-pyo, et d'une délégation du Parlement sud-coréen au bâtiment de DPR RI pour une réunion bilatérale à son bureau, jeudi. Puan espère que la visite officielle de la délégation du Parlement sud-coréen au Parlement indonésien pourra devenir une force motrice qui renforcera la coopération entre les deux pays, y compris la coopération interparlementaire. Au cours de cette réunion, Puan a également demandé le soutien de la Corée du Sud à la présidence indonésienne de l'ASEAN en 2023. En particulier, elle espère également le soutien du Parlement sud-coréen au Parlement indonésien, qui deviendra le président de l'Assemblée interparlementaire d'ASEAN, AIPA. Le ministre de l'Investissement, en tant que chef du Conseil de coordination des investissements, ou BKPM, Bahlil Hadalia, a souligné qu'il doit y avoir une égalité entre les pays en développement et les pays développés en ce qui concerne la répartition de la croissance économique. Il a déclaré qu'il n'y a pas de sens à une croissance nationale élevée sans l'existence d'une répartition égale de croissance. Ainsi, le concept de l'Indonésie est qu'il doit y avoir une collaboration entre les entrepreneurs locaux, les investisseurs étrangers et les communautés locales afin qu'ils puissent grandir ensemble. C'est ce qu'a affirmé Bahlil Hadalia dans la discussion interactive dans le cadre d'une série d'activités lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial WEF 2023 à Davos, en Suisse, comme indiqué dans une déclaration écrite reçue par Antara jeudi. La session de discussion du WEF a été facilitée par le commentateur économique en chef du Wall Street Journal, Greg Ipe, et a réuni des participants de diverses agences de promotion des investissements API du monde entier. Le gouvernement provincial du sud-est de Sulawesi et l'Université américaine de Rhode Island, URI, ont poursuivi la collaboration établie en 2019. Le secrétaire régional du Sud-Est de Sulawesi, Asrun Liu, a déclaré jeudi dans une déclaration écrite que, lors d'une réunion entre le gouvernement provincial du Sud-Est de Sulawesi et l'URI, un protocole d'accord a été discuté qui comprenait environ 11 programmes de coopération. La collaboration comprend entre autres les domaines de l'éducation, de la recherche, du conseil, du développement du personnel régional et de la conservation de la biodiversité. Pendant ce temps, le directeur des partenariats commerciaux et éducatifs en Asie de l'Université de Rhode Island, Brooke William Ross, a déclaré Précédemment, Uri a également aidé le gouvernement indonésien dans le développement des ressources humaines, la recherche et le conseil dans toute l'Indonésie dans les domaines de l'économie bleue, de l'environnement, de la pêche, la marine, la foresterie, la santé publique et soutien à diverses institutions gouvernementales indonésiennes. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Raison de la démission du président du Vietnam ». Vous êtes avec moi Audrey. Chers auditeurs, le président vietnamien Nguyen Chuan Phuc a démissionné le mardi 17 janvier 2023. L'Assemblée nationale du Vietnam a approuvé mercredi 18 janvier la démission du président Nguyen Xuan Phuc dans le cadre d'enquête en cours sur un scandale de corruption lié à la gestion par le pays de la pandémie de COVID-19. L'enquête, qui a été menée par le secrétaire général du Parti communiste Nguyen Phu Thong, fait partie d'une campagne anticorruption. La police vietnamienne a arrêté plus de 130 responsables gouvernementaux et homme d'affaires dans le cadre de la campagne anticorruption de Nguyen Phu Thong. Parmi eux, Pham Binh Minh et Vu Duc Dam ont été démis de leur fonction de vice-premier ministre au début du mois pour inconduite présumée. Le ministre de la Santé Nguyen Tan Long et le maire de Hanoï, Chu Ngoc An, ont également été arrêtés pour la corruption. Phuc est devenu le premier président vietnamien à démissionner soudainement de ses fonctions et c'était une décision très inhabituelle au Vietnam. Les changements de leadership se produisent généralement lorsqu'il y a une pression ou une menace pour la stabilité du pays. La corruption n'est pas un problème classé comme perturbateur de la stabilité dans le pays. au point qu'il semble étrange que le problème de la corruption soit la raison de la démission d'un président. De plus, ce dont il a été prouvé qu'il avait commis des actes de corruption n'était pas Pouk, mais des fonctionnaires de son gouvernement. Dans son effort pour répondre aux questions du public, le Parti communiste vietnamien a expliqué, cité par le diplomate, 18 janvier 2023, qu'il essaie actuellement de créer ce qu'on appelle une culture de la démission. Quand quelqu'un commettait une erreur ou était responsable d'un scandale survenu sous sa supervision, on s'attendait à ce qu'il démissionne. Pas besoin d'attendre que le parti passe à l'action. Cela dit, le comité central du parti doit avoir une politique qui encourage les gens à démissionner volontairement. Beaucoup ne croient pas simplement la raison donnée par le Parti communiste vietnamien. L'un d'eux est un analyste de BBC News, Jonathan Head. Comme cité par BBC News, 17 janvier, il doute en raison du scandale de corruption derrière le changement de direction aux Vietnamiens. Jonathan Head a déclaré que la politique vietnamienne était difficile à lire, car les décisions étaient prises à huis clos. Ce qui a été transmis au public s'est produit au nom de l'éradication de la corruption. Mais il y avait très probablement une autre raison derrière cela. Selon lui, le changement de direction au Vietnam a montré qu'il y avait une tentative de prise de pouvoir au sommet du parti. Très dommage si c'est vrai. Pouk ne devrait pas simplement démissionner à cause d'une lutte de pouvoir. Surtout si l'on considère que pendant son mandat, à la fois en tant que premier ministre et en tant que président, Pouk était connu pour ses politiques favorables aux entreprises de ses efforts pour attirer les investissements étrangers au Vietnam. Il soutient également les mesures visant à améliorer les infrastructures du pays, à construire un système juridique moderne et à promouvoir une économie plus ouverte et durable. Si Pouk démissionne vraiment dans le cadre des efforts du Parti communiste vietnamien pour créer une culture de la démission, comme l'a dit Nguyen Phu Trong, c'est certainement un bon pas. La vulgarisation de la culture de sa résignation à cause de la responsabilité mérite d'être soutenue et d'être un exemple à suivre pour les dirigeants de n'importe quel pays. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire d'aujourd'hui.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 20 janvier 1945, le premier ministre Béla Miklós a signé un armistice avec les Alliés. Le gouvernement provisoire hongrois, dirigé par le premier ministre Béla Miklós de Dánok, a accepté de signer un armistice avec les Alliés le 20 janvier 1945. Cela a également mis fin à la participation de la Hongrie à la Seconde Guerre mondiale. Concernant les événements de 1958, les gouvernements indonésiens et japonais ont signé un accord de paix et un accord d'indemnisation. Après l'indépendance de l'Indonésie pendant 12 ans, l'Indonésie a établi des relations avec de nombreux pays dans le monde, dans l'intérêt de la politique, de l'économie, de la paix et de la prospérité de l'État et du peuple indonésien, l'un d'entre eux avec le Japon. Entre l'Indonésie et le Japon, il y a eu des relations économiques et commerciales, mais les relations politiques sont encore dans une atmosphère anormale, parce que les deux pays sont formellement en état de guerre. Sidang DPR.go.id sur la base de l'accord qui a été conclu entre le Premier ministre de la République d'Indonésie et le Premier ministre du Japon, Nobusuke Kishi, concernant les réparations de guerre et d'autres questions liées aux relations entre l'Indonésie et le Japon, les deux premiers ministres ont signé un mémorandum le 8 décembre 1957 à Jakarta. Sur la base de le mémorandum, un accord de paix et un accord d'indemnisation ont été conclus entre le gouvernement de la République d'Indonésie et le gouvernement du Japon, qui a été signé par le ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Subandrio, et le ministre des Affaires étrangères du Japon, Eiichiro Fujiyama, le 20 janvier 1958 à Jakarta. Le 20 janvier 1961, l'investiture du président des États-Unis. John F. Kennedy a officiellement prêté serment en tant que 35e président des États-Unis le 20 janvier 1961 à Capitol Hill à Washington. Kennedy a succédé au plus vieux président de l'histoire américaine, le général Dwight Eisenhower, qui a démissionné à l'âge de 70 ans. John F. Kennedy a clôturé son discours de 10 minutes par une phrase pleine d'inspiration dont on se souvient aujourd'hui. Ne demandez pas ce que le pays a fait pour vous, mais ce que vous avez fait pour le pays. Mon peuple, ne demandez pas ce que l'Amérique vous a donné, mais ce que nous pouvons faire pour la liberté de chaque être humain. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Salah, cinta tak pernah salah.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers amis de l'antenne, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie et pour le titre. Le gouvernement est optimiste que le développement des infrastructures soutient l'économie régionale. Le ministère des Travaux publics et du logement du peuple, PUPR, optimise le développement des infrastructures afin de soutenir la croissance économique régionale et l'investissement. Le ministre de la PUPR, Basuki Hadi Mulyono, a déclaré que le ministère de la PUPR donnerait toujours la priorité à l'utilisation du développement des infrastructures qui sont déjà construites, notamment par le biais de l'exploitation, de la maintenance, de l'optimisation et de la réhabilitation OPOR. Comme cité sur la page Antara, 18 janvier, le ministre de la PUPR, Basuki Hadi Mulyono, a déclaré dans une déclaration écrite à Jakarta mercredi que le gouvernement poursuivra le développement des infrastructures qui ont été construites et se concentrera sur la collaboration et l'utilisation de ce qui a été construit jusqu'à présent. Le ministre Basuki a déclaré que les infrastructures ont un rôle à jouer dans la maîtrise de l'inflation, notamment en assurant l'approvisionnement en denrées alimentaires et en produits de base grâce à la construction de barrages, de réseaux d'irrigation et à la réhabilitation des réseaux d'irrigation. Selon Basuki, actuellement, 38 des 61 barrages en Indonésie ont été inaugurés par le président Jokowi. Avec la superficie des nouvelles terres agricoles irriguées en 2022, environ 2055 hectares auront été atteints, tandis que pour la réhabilitation des réseaux d'irrigation, ce sera déjà 3,84 millions d'hectares. La tâche du gouvernement régional est de maintenir un réseau tertiaire afin que la production de riz puisse être encore meilleure. Le développement des infrastructures joue également un rôle pour assurer la bonne distribution des denrées alimentaires et des produits de base grâce à la construction de routes à péage et à la construction de routes sans péage. Ensuite, le contrôle des inondations pour un transport en douceur grâce à la construction de barrages, le contrôle des inondations et la protection côtière et la construction de routes de production. Le ministre Basuki a également déclaré que la distribution affecte également l'inflation et l'investissement. Jusqu'en 2022, 1450 km de nouvelles routes à péage ont été construites et opérationnelles. En 2024, il est prévu que 2697 km de routes à péage soient connectées, de sorte que la longueur totale des routes à péage en 2024 atteindra 3490 km. La construction de routes de production est réalisée pour faciliter le transport des produits par les agriculteurs à travers le programme de développement des infrastructures socio-économiques régionales, PISEW, avec une approche de participation communautaire. Le programme PISEW est mis en œuvre pour l'investissement économique régional à travers le développement des infrastructures dans les zones rurales. En outre, pour éradiquer l'extrême pauvreté et lutter contre le retard de croissance, divers programmes ont été mis en œuvre dans le cadre de la fourniture et de l'amélioration des infrastructures en utilisant une approche de participation communautaire à travers le développement des infrastructures. En commençant par l'amélioration des maisons grâce à l'aide à la stimulation du logement par l'auto-assistant ou BSPS, la fourniture d'eau potable et d'assainissement. Chers auditeurs, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
Terpesona hatiku senangnya saat ku tahu namamu ku temukan Instagrammu coba mendekatimu jatuh cinta cinta pertama kali ku jatuh cinta.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine culturel intitulé Gulat Okol. C'est l'huître d'Okol avec moi, Audrey. Chers amis, l'Indonésie n'a pas seulement le pencaksilat comme art martial traditionnel. Dans l'est de Java ou Java oriental, il existe un art martial de lutte qui est également populaire. Son nom est Gulat Okol. C'est lutte d'Okol. La tradition de la lutte d'Okol est souvent pratiquée à Madura, Surabaya et Gresik. La lutte Okol a commencé avec les activités des citoyens lors de l'élevage de leur bétail, en attendant que les buffles, les vaches et les chèvres trouvent leur nourriture dans les rizières. Les éleveurs passent leur temps libre à lutter sur la paille. Maintenant, à Madura, Gulat Okol ou lutte d'Okol est joué pour accompagner un certain nombre d'événements, tels que l'événement de course de colombes. L'événement de bataille s'appelle Keket ou Okol. L'événement implorant la pluie. Pendant ce temps, à Surabaya et Gresik, cette tradition est présente dans chaque célébration d'Umon. L'objectif est une forme de gratitude pour les récoltes obtenues par les agriculteurs. Chers amis, ce rituel de lutte était à l'origine pratiqué dans les rizières. Cependant, maintenant, la lutte au col se déroule sur une scène avec des nattes faites de sacs en toile, des joutes avec de la paille placée au fond. L'arène de lutte de 6 mètres multiple 8 mètres est conçue comme un ring de boxe avec deux coins. Autour de la scène a été donnée une grande corde. Un combat est mené par deux lutteurs. Chaque lutteur se distingue par un bandeau et une ceinture rouge et noire. Ils se sont battus deux ronds. Un joueur est déclaré vainqueur s'il réussit à renverser son adversaire et qu'il est en tête, ce qui remporte vainqueur jusqu'à ce qu'un champion soit obtenu. Dans sa mise en œuvre, la lutte traditionnelle est divisée en trois catégories, à savoir les enfants, les adolescents et les hommes adultes et les femmes. Chers amis, pas seulement joueurs, les matchs de lutte au col appliquent également un certain nombre de règles pour éviter les effets négatifs. Certaines des règles qui ne sont pas autorisées dans les jeux de lutte au col incluent « Il est interdit de frapper un adversaire de manière à blesser l'adversaire en lui tendant les jambes », y compris saisir l'adversaire à l'aide de clous causant des blessures. Pour cette raison, avant le début du jeu, les participants ou lutteurs doivent être vérifiés pour leur état de préparation et leur état. Puis, pour accompagner les performances de lutte de col sur scène, les villageois ou les citoyens locaux jouent généralement du gamelan. Le son du gamelan joue et anime le déroulement du match qui s'est déroulé. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le magazine culturel.
Bye.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée Garuda Indonesia devient la compagnie aérienne la plus ponctuelle au monde en 2022. Vous êtes avec moi Audrey. Serge Littard, la compagnie aérienne Garuda Indonesia a remporté le titre de la compagnie aérienne mondiale la plus ponctuelle en 2022. Le prix de la compagnie aérienne mondiale la plus ponctuelle a été attribué sur la base des données d'OAG Flight View, un institut de recherche indépendant d'Angleterre qui évalue les performances des niveaux de ponctualité des compagnies aériennes mondiales. En lançant les données de la Punctuality League 2023 par OAG Flight View, Garuda Indonesia a enregistré un niveau de rapidité de 95,63%. C'est l'atteinte du plus haut niveau de ponctualité jamais atteint par Garuda Indonesia dans ce classement depuis 2019. Garuda Indonesia a occupé la deuxième place du classement des données de la Ligue de ponctualité au cours de la période précédente. Serge Littard, le directeur principal de Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, a déclaré que cette réalisation était une forme de cohérence de Garuda Indonesia dans la maximisation des performances et de la qualité du service, en particulier grâce à la rapidité. Selon Irfan, cette réalisation a suscité l'optimisme de Garuda Indonesia pour continuer à fournir les meilleurs services de vol pour la communauté dans son ensemble, des aspects de services de sécurité à la qualité de la rapidité. De plus, il espère que l'atteinte de ce niveau de ponctualité pourra être maintenue. Garuda Indonesia est la seule compagnie aérienne indonésienne à figurer dans le top 20. La deuxième position a été remportée par la compagnie aérienne Safair d'Afrique du Sud avec une ponctualité de 95,30% et la troisième position a été remportée par Eurowings d'Europe avec un score de 95,26% en ce qui concerne le respect des exigences à inclure dans la liste de calcul de la Ligue de ponctualité d'OAG. OAG doit collecter des données sur l'état des vols pour au moins 80% de tous les horaires de vol exploités par les compagnies aériennes. Il existe plusieurs critères de ponctualité OTP du BVG. Cela inclut d'être à l'heure pour les vols qui arrivent ou partent dans les 15 minutes suivant leur arrivée ou leur départ prévu. Les annulations sont également incluses dans le calcul OTP et sont comptées comme un vol en retard. Bon, chargé de retard, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Cepat, cepat, jangan terlambat. Inspirasikanlah sahabat. Cepat, cepat.
de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Cinta ialah bualan dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengarungi. Aku ingin bersandar, menikmati bintang berpijar. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lupa. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan, hangat dalam dekapan.
Aku merasa Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Java occidentale intitulée Curug Gawang. Chers amis, cette chanson raconte la beauté d'une cascade nommée Curug Gawang, qui est située dans le sous-district de Sindangkerta, Bandung. Le bruit rugissant de l'eau tombant d'une otar, l'eau propre et l'air frais, font de cette chute d'eau ou cascade un lieu de prédilection pour les populations locales, pour les habitants locaux, pour passer leur temps libre et en même temps prendre soin de la beauté de la nature et la beauté de la cascade. Bonjour Joytar, voici Nurul S. Cahyani va chanter une chanson de Java occidentale intitulée Curug Gawang. Bonne écoute.
Terima kasih. Selang Herang, China, tempat Minang pratumbi.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voixindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia, joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voix Indonesia, et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt!